Voilà. Régulièrement, nous parlons de grandir à la ressemblance de Christ. Voilà, et l'idée étant de cheminer depuis notre conversion, au moment où nous rencontrons Christ, de cheminer dans notre vie chrétienne, de grandir en maturité, de grandir spirituellement, jusqu'à l'objectif étant de ressembler à Jésus. Ça, c'est bien de parler de maturité, mais c'est quoi la maturité et comment y arrive-t-on? Eh bien, je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, hein, ou alors de suivre le texte qui sera projeté. Éphésiens chapitre 4, nous nous intéresserons aux versets 11 à 16. C'est lui, il s'agit de Jésus, c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, un moyen pour comprendre ce qu'est la maturité chrétienne, c'est d'en relever les fruits. Et au verset 14, il est écrit que grâce à la maturité, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Il y a des chrétiens matures et d'autres qui ne le sont pas. On peut être un véritable chrétien, être né de nouveau, être devenu un enfant de Dieu, mais pourtant rester au stade de l'enfant spirituel. Et c'est ainsi qu'il y a des chrétiens et des églises qui partent à la dérive. Elles se laissent séduire et influencer par toutes sortes d'idées, et parfois même elles finissent par s'égarer loin de Dieu. Par exemple, si on se laisse séduire par le matérialisme, une valeur que véhicule notre société, eh bien on peut facilement tomber dans l'évangile de prospérité. Voilà. Dieu va assurer sur cette terre notre bonheur matériel. Si on se laisse gagner par le doute dans la bonté, dans la grâce de Dieu, on peut facilement tomber dans le légalisme. On a besoin de mériter l'amour de Dieu. On va même réussir si on fait telle ou telle chose. Et si on se laisse influencer par l'individualisme et l'égoïsme ambiant, on peut finir par croire que nous sommes le centre du monde. Ce qui compte, c'est moi. Nous ne venons plus à l'église pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Nous prenons dans la parole de Dieu, voilà, ce qui nous intéresse, ce qui nous arrange. Mais le reste, on le met de côté, on le jette. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Ah, merci Seigneur! Mais on refuse Jésus comme notre Seigneur. Et puis on considère que les autres, ils sont là pour nous. Mais on oublie un petit peu que nous sommes là également pour eux. Lorsque nous manquons de maturité chrétienne, nous sommes ballottés et emportés par la pensée du monde et le mode de vie ambiant. Et cela peut nous amener à nous égarer loin de Dieu et de son plan pour nous. Mais la maturité chrétienne, au contraire, nous permet de rester fermement attachés à Christ, quoi qu'il arrive. Donc, quelle liberté, quelle sécurité de pouvoir évoluer dans un monde instable, mais de demeurer ferme dans ce que nous croyons, dans ce que nous vivons. La maturité chrétienne nous permet d'affronter la vie et le monde tout en restant intimement lié à Jésus, quoi qu'il arrive. Mais la maturité chrétienne, c'est quoi? Alors certains pensent qu'un chrétien mature, c'est un chrétien qui a la connaissance de la volonté de Dieu. Et notre passage qui nous parle de maturité semble aller dans ce sens. Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, le point commun à tous ces ministères, c'est que tous sont liés à la connaissance de la volonté de Dieu. Les apôtres, ce sont ceux à qui Dieu a confié la mission de poser les bases, les fondements de la vie chrétienne. Alors, il n'y a plus d'apôtres maintenant, mais pourtant notre foi maintenant est fondée sur leur enseignement. N'oublions pas que l'essentiel du Nouveau Testament a été écrit par des apôtres. Les prophètes, ce sont ceux qui, sous la conduite du Saint-Esprit, font entendre des paroles qui viennent du Seigneur. En fait, les prophètes sont là pour nous aider à faire le lien entre notre vie et la volonté de Dieu. Alors depuis la Pentecôte, ce ministère a évolué, a changé, puisque maintenant, tous les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit et sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, on voit que dans le Nouveau Testament, le mot « prophétie » a à peu près, enfin en règle générale en tout cas, le synonyme pour nous de « prédication ». Celui d'apporter une parole qui vient du Seigneur. Les évangélistes, ce sont ceux qui apportent la connaissance de la bonne nouvelle du salut à ceux qui sont dans l'ignorance. Et puis les bergers et enseignants, dans le texte grec, les deux sont liés, les bergers et enseignants, ce sont ceux qui connaissent la volonté de Dieu et qui montrent la direction qu'il faut emprunter, voilà, pour suivre Jésus. Donc ces ministères, en quelque sorte, poursuivent la même mission qui est indiquée au verset 15, c'est-à-dire celle de dire la vérité, celle d'annoncer la volonté de Dieu, afin que ceux qui l'entendent puissent grandir ensemble à la ressemblance de Christ. La connaissance de la volonté de Dieu est donc à la base de la maturité chrétienne. Mais pourtant, elle ne peut se résumer à cela. On peut être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, on peut mettre un spécialiste de la parole de Dieu sans être nécessairement un chrétien mature. Le diable, par exemple, est le grand spécialiste de la connaissance de la parole de Dieu. Il est même capable de la citer. Et il se sert de sa connaissance pour essayer de tromper les hommes, pour les éloigner de Dieu. On peut être un spécialiste de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, et être comme ces hommes que Jésus a rencontrés, hypocrites dans notre foi, avoir le cœur tellement dur que nous enseignons les autres sans appliquer nous-mêmes ce que dit la parole de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu n'est pas suffisante pour faire de nous un chrétien mature, parce que la connaissance de la volonté de Dieu n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen. Le but de la connaissance, c'est, verset 12, de former les saints aux tâches du service. Alors les saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés par Jésus, c'est-à-dire ce sont ceux qui lui appartiennent, les chrétiens. Le mot service peut aussi se traduire, et c'est le cas de certaines traductions, peut également se traduire par les œuvres du ministère. La connaissance de la volonté de Dieu a pour but de nous former afin que nous rentrions au service du Seigneur. Et pas parce que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur est tout puissant et il n'a pas besoin de nous pour que son plan s'exécute, se réalise. Mais par contre, la connaissance de la volonté et du plan de Dieu nous permet de rentrer dans l'alliance que Dieu nous propose, de ennemis de Dieu, de étrangers, nous devenons serviteurs de Christ. Nous collaborons avec Dieu. Nous allons dans le même sens que Dieu Et notre service nous rapproche donc de Christ et nous fait même grandir à sa ressemblance. Dieu n'a pas besoin qu'on le serve, mais Dieu nous fait la grâce de rentrer à son service parce que c'est par ce moyen qu'il veut nous faire grandir à la ressemblance de Christ. La connaissance de la volonté de Dieu, la mise en pratique de la volonté de Dieu, c'est verset 12, en vue de l'édification du corps de Christ. Le but que Dieu poursuit, c'est de restaurer en nous son image. Vous savez, nous avons été créés en image de Dieu. Eh bien, Dieu veut restaurer en nous cette image. Dieu veut nous faire grandir jusqu'à ce que nous parvenions, verset 13, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est ce que nous connaîtrons un jour. Christ, l'homme parfait. Et qu'est-ce qui a caractérisé Jésus ? C'est que Jésus connaissait parfaitement la volonté de Dieu, il était au clair avec cela, mais aussi tout ce que Jésus savait de la volonté de Dieu, il l'a mis en pratique dans sa propre vie. Ses pensées, ses sentiments, ses actions, tout reflétait parfaitement la volonté de Dieu. Eh bien, ce chemin vers la maturité commence dès notre conversion, mais ne sera parfaitement achevé que lorsque nous verrons Jésus revenir. Et en attendant ce jour glorieux, nous sommes invités à grandir, à faire un pas après l'autre, afin de ressembler de plus en plus à Jésus. Jusqu'à, alors là nous aurons certainement un certain travail à faire, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Parce que ce chemin est long, alors autant nous y mettre tout de suite. Cherchons à connaître les pensées de Dieu, cherchons à les mettre en pratique dans notre vie, c'est-à-dire marchons en tant que serviteurs de Christ. Reste à se poser une question. Avec qui entreprendre ce voyage qui nous permettra de cheminer sur le chemin de la maturité? Alors, cette question est même un peu curieuse parce que la Bible met l'accent sur la responsabilité individuelle. Chacun est mis face à sa responsabilité personnelle devant Dieu. Chacun est responsable de chercher Dieu et sa volonté, et chacun est responsable de la mettre en pratique. Et la Bible nous dit d'ailleurs que chacun recevra de Dieu une récompense qui correspondra à la manière dont il aura marché avec Dieu. Notre responsabilité individuelle est engagée dans notre croissance spirituelle, mais pourtant, il nous est totalement impossible de cheminer seul vers la maturité. Alors vous savez, hein, bientôt c'est l'été, il y a des voyagistes qui proposent toutes sortes de destinations. En matière de voyage, certaines destinations peuvent être atteintes par une personne seule. Mais pour d'autres destinations, seuls des voyages collectifs sont proposés. Eh bien, c'est le cas du voyage vers la maturité spirituelle. Il est absolument impossible de grandir seul à la ressemblance de Christ. Et notre passage est très clair sur ce point. Tout d'abord, il nous est rappelé que, bien sûr, on s'en doutait, nous avons besoin de Jésus pour grandir. C'est Jésus qui donne à son Église les dons et les serviteurs dont elle a besoin. C'est Jésus qui poursuit le projet de former, de transformer ceux qui lui appartiennent. Et c'est même de Jésus que le corps tout entier tire sa croissance. Sans l'action de Jésus, il nous est impossible de grandir à sa ressemblance. Notre maturité spirituelle individuelle va donc être liée à notre relation avec Jésus. Gardons nos cœurs et nos pensées tournées vers Jésus. Mettons-nous à rechercher sa volonté et cherchons également à la mettre en pratique. Soyons à l'écoute de ce que nous dit le Saint-Esprit. Et soyons soumis au Saint-Esprit, laissons-nous façonner par lui. Un chrétien qui s'est coupé ou détourné de Jésus ne grandira pas à la ressemblance de Jésus, mais il restera un chrétien immature, ballotté et emporté loin du projet de Dieu pour sa vie. Pour grandir spirituellement, nous avons besoin de Jésus, mais ça nous le savions déjà. Mais notre texte souligne également que pour grandir, nous avons besoin de nos frères et sœurs. Déjà, relevons que notre texte ne parle pas de maturité individuelle, mais uniquement de maturité collective. Ce que Jésus a en vue, c'est l'édification de son corps. L'objectif, c'est que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et à la connaissance de Jésus. C'est ensemble que nous devons grandir. C'est son corps tout entier que Christ veut faire grandir. L'accent est mis sur la maturité collective, la maturité de l'Église, parce qu'atteindre la maturité spirituelle tout seul est un non-sens. C'est un non-sens que d'atteindre la maturité spirituelle tout seul. Un véritable chrétien ne peut pas se préoccuper seulement de son intérêt personnel, mais il doit aussi se préoccuper de celui des autres. Et la véritable maturité spirituelle se révèle au travers des relations que nous avons les uns avec les autres. Je l'avais déjà dit, hein, mais moi tout seul, je suis un chrétien hyper mature. Exceptionnellement même mature pour mon âge. Je suis aimable avec moi-même, je prends soin de moi, je me soucie de moi, je me pardonne, je cherche mon intérêt, je cherche à me faire plaisir. Et si je vivais tout seul, j'aurais l'illusion de ressembler déjà à Jésus. Mais voilà, au contact des autres, à votre contact, mes illusions s'envolent et je réalise que j'ai encore bien du chemin à parcourir et que je dois me laisser davantage conduire et façonner par Jésus afin de lui ressembler de plus en plus. Je dois apprendre à aimer comme Jésus, je dois apprendre à pardonner comme Jésus, je dois apprendre à me soucier des autres comme Jésus. C'est parce que nous sommes en relation avec d'autres personnes que nous allons pouvoir grandir à la ressemblance de Jésus. Et c'est en particulier parce que nous sommes en relation avec des frères et sœurs en Christ au sein de l'Église que nous allons bénéficier de leur aide pour grandir. Et c'est également en partie grâce à nous que les autres vont grandir à leur tour. Au sein de l'Église, nous grandissons grâce au ministère particulier que le Seigneur a confié à certains pour nous révéler sa volonté. Nous grandissons ainsi grâce à l'ensemble des saints qui servent le Seigneur. Nous grandissons grâce à nos frères et sœurs qui vivent en tant que serviteurs de Christ. Nous grandissons lorsque nous nous disons la vérité dans l'amour. Et lorsque l'Église en son ensemble est reliée à Christ, notre texte pousse même l'audace jusqu'à dire que l'Église s'édifie elle-même dans l'amour. L'Église s'édifie elle-même. Mutuellement, nous nous édifions les uns les autres. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons au milieu des autres qui contribue à leur édification. C'est ça qui contribue à l'édification de l'ensemble de l'Église. Est-ce que vous êtes conscient que vous jouez un rôle important dans l'édification de vos frères et sœurs? Est-ce que vous êtes conscient que Jésus veut passer par vous pour faire grandir les autres? La maturité d'une Église est liée à la maturité individuelle de ses membres, mais aussi à leur capacité à se faire grandir mutuellement les uns les autres. L'Église s'édifie elle-même dans l'amour. Alors on pense souvent que la maturité spirituelle d'une église va dépendre du pasteur, des anciens, des enseignants de l'église. C'est vrai qu'ils y contribuent. Ce sont eux qui sont chargés de communiquer la personne et le plan de Dieu à l'église. Leur mission, c'est de montrer le chemin qu'il faut emprunter pour suivre Jésus. Mais ce qui va faire la maturité spirituelle d'une église et ce qui va vraiment faire grandir chacun de ses membres, ce n'est pas le chemin qui simplement est annoncé, le chemin annoncé pour suivre Jésus, mais c'est lorsque le chemin sera emprunté, suivi par ceux qui sont dans l'église. Lorsque nous voyons un frère ou une sœur vivre en serviteur de Christ, eh bien cela nous édifie. Cela nous montre comment la volonté de Dieu peut être concrètement mise en pratique dans notre vie. Et cela nous encourage à faire la même chose dans notre propre vie. Moi, je suis édifié par la manifestation de la présence de Christ dans la vie de mes frères et sœurs, c'est-à-dire de vous, et je suis certain que je ne suis pas le seul. Je suis par exemple édifié par une parole encourageante que j'ai entendue. Alors cela m'encourage dans mon service, mais cela me donne également envie d'encourager les autres à mon tour. Je suis édifié par le pardon dont j'ai bénéficié. Cela me libère d'un poids, mais cela m'encourage également à pardonner à mon tour. Je suis édifié par ceux qui témoignent de leur foi à leur entourage. Ça m'encourage à faire de même. Je suis édifié par la fidélité de certains à venir ici dimanche après dimanche, malgré le beau temps, malgré la fatigue, malgré la maladie. Et moi, cela m'encourage à persévérer dans mon propre service. Je suis édifié lorsque quelqu'un qui a peur est là dans l'église et pourtant va ouvrir la bouche pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie ou va prier le Seigneur. Cela me montre que Dieu est à l'action dans la vie de cette personne, mais cela m'encourage également moi-même à oser aller au-delà de ma peur pour rendre gloire à Dieu. Je suis édifié lorsqu'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles, mais qui pourtant continue à manifester sa confiance dans le Seigneur. Cela me montre que Dieu est puissant, que Dieu peut réconforter les cœurs malgré les situations, et cela aussi m'encourage à garder confiance dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu fait, même si les circonstances me semblent défavorables. Et aussi, est-ce qu'on n'est pas tous encouragés par, vous savez, les petites choses qui sont faites dans la plus grande discrétion, mais que, oh, on finit par remarquer malgré tout, au moins en partie, de temps en temps. Les réparations, les rangements, les nettoyages, les personnes qui sont visitées, les personnes qui sont aidées dans les difficultés qu'elles rencontrent. Et ça, ça nous encourage, nous aussi, à faire la même chose et à faire un service pour le Seigneur, simplement pour être vu du Seigneur, pour lui plaire, et non pas parce que cela est vu par les autres. Je suis édifié lorsque quelqu'un reconnaît son péché. Cela m'encourage moi-même à être franc face à mon propre péché, à ouvrir les yeux sur mon péché et à me repentir. Je suis édifié lorsque je vois quelqu'un qui change de vie pour servir Christ, pour le suivre. Cela m'encourage à mettre également Christ à la première place. Cela me rappelle mon premier amour et à mettre vraiment Christ à la première place. Je suis édifié par ceux qui savent dire la vérité dans l'amour. Pas la vérité toute seule, la vérité dans l'amour. Ça m'encourage aussi à chercher à dire la vérité accompagnée d'amour. Je suis encouragé par les faiseurs de paix. Vous savez, ces personnes qui, les situations semblent explosives, mais par leur présence, par leurs paroles, elles amènent la paix. Ça m'encourage et j'ai envie d'être un faiseur de paix. Je suis encouragé par ceux qui savent entendre des reproches sans chercher à se défendre. Ça m'encourage moi-même à être à ouvrir mes oreilles et mon cœur pour pouvoir entendre les reproches qui me sont adressés, sans chercher à me défendre à tout prix. Je suis édifié, mais je suis sûr que nous sommes tous édifiés, parce que derrière cela, nous voyons l'action concrète de la présence de Dieu dans la vie de ces personnes. Nous voyons que c'est Jésus qui fait grandir son Église, mais nous voyons également que Jésus passe par nous. Quel bonheur, non, lorsque Jésus passe par nous pour faire grandir son Église. Quel bonheur de recevoir de quelqu'un quelque chose qui nous édifie, mais quel bonheur également de voir que, sans même que nous l'ayons imaginé au départ, quelqu'un avance avec le Seigneur. Dieu nous aime tellement qu'en Jésus-Christ, il nous a acceptés tels que nous étions et il a fait de nous ses enfants. Nous sommes sauvés par grâce. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions de petits enfants spirituels qui risquent d'être ballottés et emportés loin de lui. Dieu veut faire de nous des chrétiens matures, des chrétiens solides. Dieu veut restaurer en nous son image. Dieu veut nous faire grandir à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est merveilleux. C'est Jésus qui nous fait grandir, mais le moyen par lequel il veut nous faire grandir, c'est son propre corps, c'est-à-dire c'est l'Église, c'est nous tous ensemble. Unis à Jésus, c'est unis à lui, que nous allons nous édifier nous-mêmes, dans l'amour. Ce n'est pas une prétention excessive de dire cela. Nous pouvons nous édifier nous-mêmes si nous restons unis à Christ, parce que c'est lui qui se manifeste dans nos vies. Que chacun de nous reflète Christ dans sa propre vie et ainsi puisse édifier ses frères et sœurs. Restons centrés sur Christ, vivons en tant que serviteurs que Christ, de Christ, et alors nous pourrons mutuellement nous faire grandir à la ressemblance de Christ. Je vous invite à un temps silencieux. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous sommes imparfaits, mais tu nous as graciés, tu nous as acceptés en ta présence. Nous avons une assurance auprès de toi. Merci Seigneur, parce que ton plan d'amour pour nous est merveilleux, tu veux restaurer en nous ton image. Et un jour, nous verrons Christ tel qu'il est, parce que nous serons transformés en son image. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Aucun de nous n'est parfait, mais chacun de nous a quelque chose qui vient de toi. Que nous puissions mutuellement, Seigneur, nous faire grandir, te mettre à la première place dans nos vies, pour que nous puissions mutuellement nous édifier, que nous puissions grandir, être des chrétiens solides dans ce monde tellement instable. Merci, Seigneur, pour ce que nous sommes au milieu de toi, ainsi Seigneur pour ce que tu es au milieu de nous, notre vie. Gloire te soit rendue Seigneur. Amen. Je me demande si je te laissais la place ou... Oui.
Nous avions prévu un dernier chant qui va peut-être illustrer ce que tu nous as dit. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Ça peut être notre mot d'ordre pour la semaine. Nous voulons marcher dans les voies du Seigneur.